Vous écoutez On lit pour vous.
Est-ce vrai? Une chronique de Patrick Lagacé, parue le 17 juin 2026 dans La Presse. L'ère numérique a permis de transformer en blague la vérité prononcée en 1982 par le sénateur américain Daniel Patrick Moynihan. Chacun a droit à ses propres opinions, mais pas à ses propres faits. Cause et symptômes de cette ère où chacun fabrique ses faits comme on se compose une assiette au buffet, Donald Trump a été élu en 2016. Le jour de sa prestation de serment, sa porte-parole a contesté la question d'un journaliste en parlant des faits alternatifs qui étaient ceux de sa tribu trumpiste. Elle a fait rire d'elle. Mais on sait, 9 ans plus tard, qu'elle avait raison. On a droit à ses propres faits. Ça fait 1000 fois que je vous parle de ça, du réel qui s'effrite sous nos yeux. 1000 fois depuis 20 ans que je constate des anecdotes qui, mises bout à bout, racontent l'effritement du consensus sur les faits, consensus qui permet de vivre ensemble dans une démocratie. J'ai commencé à vous parler de cet effritement après les attentats de 2001, quand les complotistes hurlaient que ces attaques avaient été organisées par le gouvernement américain. Puis, quand les anti-vax se sont mis à sévir un peu partout, avant même la pandémie. Quand les manifestants du printemps étudiant de 2012 inventaient des morts dans les manifs, quand des militants racistes se sont mis à fabuler sur l'immigrant qui mange nos enfants. Quand QAnon a fantasmé une prison pour enfants dans le sous-sol inexistant d'une vraie pizzeria de Washington. Quand les anti-vax sont devenus un véritable mouvement politique pendant la pandémie. Jusqu'à récemment, en grattant un peu comme on enlève la pelure de l'ananas, on pouvait faire triompher la vérité, le fait. Fallait bûcher un peu, mais on pouvait y arriver avec un bon outil et un peu de temps. Je parle au passé. Il ne sera bientôt plus utile de voir ce qu'il y a sous la pelure, de distinguer le vrai du faux. Parce que l'intelligence artificielle va créer de faux trop beaux pour être débusqués en temps opportun, à temps pour influencer débats et discussions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hani Farid, spécialiste mondial de l'enquête numérique, le Colombo du vrai et du faux sur l'Internet depuis 20 ans. Chargé de cours à Berkeley, fondateur de Get Real Security et inventeur d'outils qui permettaient de débusquer les faux en images et en vidéo. Des gouvernements, des individus, des médias, des ONG ont fait appel à ces services depuis 20 ans pour trancher une question fondamentale. Est-ce vrai? Et là, dans un long article terrifiant du New York Times, Hani Farid confie son désespoir et son vertige. Il lui est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Pas impossible, difficile et chronophage. Le journaliste a été témoin d'un échange entre Farid et son épouse, Emily Cooper. La technologie s'en vient trop efficace, dit Farid. Ça m'amène dans des endroits vraiment sombres. Parce que tu ne sais plus si c'est vrai en regardant? Personne n'est capable. Je ne fais plus confiance à rien. Chaque image que je vois, je fais des lignes pour les ombres dans ma tête. Je fais de la géométrie pour essayer de comprendre ce que je vois. C'est fini. D'ici un an ou deux, tout notre système visuel sera inutile. Les outils créés par Farid sont encore performants, mais il est encore convaincu qu'il peut, avec du temps, débusquer les faux créés par l'intelligence artificielle. Le hic, c'est que les faux convainquent en temps réel. Ils contaminent ici, maintenant. Alors que les enquêtes de Hani Farid prennent du temps. Et quand son verdict tombe, quand l'expert décrète et prouve qu'une photo, qu'une vidéo, qu'un enregistrement sont des inventions, il est déjà trop tard. En 20 minutes, dit-il à ses étudiants, la partie est terminée. Une fois les angles des ombres d'immeubles mesurés, l'inflexion anormale de la voix analysée, l'absence de joues qui rougissent démontrées, preuve que la personne sur l'image n'a pas de pouls, donc n'existe pas. Bref, une fois l'analyse terminée, une fois le verdict prononcé, vrai, faux, il est déjà trop tard, dit Hani Farid. Les dommages sont accomplis. Le fait est discrédité et le faux s'impose. Et les différentes bulles dans lesquelles les citoyens numériques vivent, elles, sont déjà en train de gruger un autre os, de s'obstiner sur un autre événement, réel ou fabriqué, pour lequel on va encore demander à Hani Farid, est-ce vrai? Et l'expert va encore passer des heures à tenter de comprendre si, sur la vidéo, c'est vraiment une explosion? Vraiment une arme? Vraiment un sac de coke? Vraiment des soldats morts? Etc. Rincer, répéter, pendant que les faussaires s'amusent. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle sera la révolution humaine annoncée, ou si elle ne le sera que partiellement. Je sais juste que plusieurs des mégalomanes qui nous disent que rien ne sera plus pareil après l'IA ont intérêt à remplir la fournaise de leurs algorithmes avec des dollars. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de dollars. Là-dessus, le penseur canadien Cory Doctorow a un point de vue dissident vraiment intéressant. Il pense que le modèle d'affaires de l'IA est une fumisterie. Mais je sais que l'IA va achever de flouter la différence entre le vrai et le faux. C'est déjà fait. 10 fois par jour, je doute de faits avérés et je passe proche de croire à des faux. On achève la russification du réel dans nos démocraties. Les faits seront décrétés par les plus forts, par les plus riches, par les plus criards. Hani Farid, encore. Les géants de la tech vont tout brûler tant qu'ils font un profit. Ils ne sont intéressés par rien qui puisse les ralentir. C'était « Est-ce vrai? » Une chronique de Patrick Lagacé parue le 17 juin 2026 dans La Presse.
Christy, des coups sur le ring et dans la vie. Une chronique de Julie Vaillancourt parue le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue. Puisque plusieurs d'entre vous me demandent des suggestions de films, en voici une pour vos jours de pluie du mois de juillet. Bien sûr, comme le veut la chronique, le sujet résonne avec l'actualité québécoise. Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en septembre 2025, Le film américain Christie, réalisé par David Michaud, vient d'être distribué sur Amazon Prime. Ce film de fiction biographique relate la carrière et la vie personnelle de Christie Martin, la boxeuse la plus titrée des années 90. Née à Mullens, en Virginie-Occidentale, une ville connue pour son industrie du charbon dans laquelle travaille son père, elle sera surnommée « The Coal Miner's Daughter ». Le film débute sur fond noir, avec la voix hors champ de Christie, remarquable et méconnaissable Sydney Sweeney. Un jour, quelqu'un m'a dit que je me battais, comme si j'essayais de détruire tous ceux qui m'avaient fait du mal, comme si j'avais des démons en moi. Ces démons qu'elle porte en elle l'amènent à gagner son premier match qu'elle joue à vie. Christie était dans une équipe de basketball. Qu'à cela ne tienne, à son retour à la maison, la jeune prodige n'est pas acclamée par sa famille. Un point plus épineux est à l'ordre du jour. La relation lesbienne que Christie entretient avec Rosie, Sherry Lusk, en réalité. Nous sommes en 1989 dans une petite ville minière des États-Unis. Évidemment, le mot « lesbienne » ne sera jamais prononcé et sa mère, qui ne le digère pas et ne le digérera jamais, veut forcer Christie à avoir un prêtre pour la ramener dans le droit chemin. Ce droit chemin, au plus grand bonheur de sa mère, se trouvera en la personne de son entraîneur, Jim Martin, qui épousera Christie environ un an après avoir commencé à l'entraîner en 1991. Elle avait alors 22 ans et lui 47 ans. Ensemble, ils enchaînent les succès, menant Christie à devenir la première femme boxeuse à être intégrée à 4 prestigieuses cartes de combat télévisées à la carte « Pay-per-view » de Mike Tyson, qui ont battu des records dans les années 90. Durant l'apogée de sa carrière, Christie détient le titre de championne du monde féminine de la WBC avant que les divisions féminines ne soient pleinement structurées comme aujourd'hui. En avril 1996, elle devient la première boxeuse de l'histoire à faire la une du prestigieux magazine américain Sports Illustrated avec le titre « The Lady is a Champ »,« La dame est une championne ». Sans oublier que l'Association des journalistes de boxe américains, BWAA, crée un prix annuel qui porte son nom, le Christie Martin Women's Fighter of the Year, pour récompenser l'excellence féminine. Puis en 2009, elle est sacrée championne du monde, WBC des super mi-moyens. Le palmarès professionnel complet de Christie Martin s'élève à 49 victoires, 7 défaites et 3 matchs nuls, incluant 31 victoires par KO sur un total de 59 combats. Christie a régné sur la boxe féminine des années 1990 à 2010 grâce à son style ultra-agressif et à la puissance de ses crochets. Si son parcours professionnel pionnier est admirable, sa vie personnelle n'a pas toujours été rose, même pour celle qui arborait le rose sur le ring. Attention, les prochaines lignes vont divulgâcher le film. Son entraîneur et mari Jim Martin a abusé de Christie à plusieurs niveaux. Si le film nous le présente à la base comme un jaloux possessif, celui-ci devient rapidement contrôlant et violent. Il l'empêche de se trouver du travail, gère ses appels téléphoniques et lui fait même faire des combats illégaux dangereux. Plus encore, il profite de l'argent de celle qui aura les contrats les plus lucratifs de l'histoire de la boxe. Il manipule la famille pour redorer son blason. Il est violent verbalement et physiquement, consomme de la cocaïne et en fournit à Christie, accentuant sa dépendance et son isolement. Il l'humilie sexuellement avec des sextapes, et, après l'avoir menacé de mort pendant 20 ans, il commet l'irréparable. Un soir, alors qu'il est fou de rage et de jalousie, après que Christie ait trouvé refuge auprès de Rosie, son amie d'enfance retrouvée, et qu'elle était sur le point de le quitter, elle décide finalement de retourner dans leur maison de Floride. C'est alors que Jim poignarde Christie plusieurs fois, lui lacère la jambe, frappe son crâne au sol, puis tire une balle de fusil qui se loge à 7,6 cm de son cœur. Laissée pour morte dans leur maison, elle va malgré tout s'en sortir après plusieurs heures d'intervention chirurgicale. Il sera reconnu coupable de tentative de meurtre au second degré et condamné à la peine minimale obligatoire aux États-Unis, soit 25 ans de prison. En mai dernier, Radio-Canada rapportait que la Sûreté du Québec a commencé à appeler de manière préventive les conjoints et conjointes des détenteurs de permis d'armes à feu afin de prévenir les féminicides en s'assurant que les partenaires se sentent en sécurité. Est-ce que ce sera efficace ou simplement une autre mesure qui fera en sorte que les partenaires violents redoubleront de violence en apprenant que leur jouet par balle a été confisqué? Difficile à dire. Cela dit, on veut y croire. Nous pourrions aussi parler de la loi Gaby-Renault qui permettrait d'agir en amont en donnant accès aux antécédents criminels de violence d'un partenaire potentiel. Encore une fois, on veut y croire, mais encore faut-il que les femmes veuillent y adhérer. Je me souviens de cette scène dans le film où Christy se fait offrir de l'aide par son amie Rosie, alors que celle-ci lui propose de la sortir de cette situation et de venir habiter chez elle. Christy décide tout de même de retourner vivre dans sa maison avec son mari, et c'est à ce moment que le pire se produit. Il tire sur elle, après l'avoir poignardée à plusieurs reprises, la laissant pour morte. C'est la force physique de Christy, et surtout sa force mentale, qui lui permettra de s'en sortir. Même si toutes n'ont pas cette chance, je trouvais important de vous présenter le modèle que Christy représente. On entend beaucoup parler de décès par féminicide dans les nouvelles depuis le début de l'année, mais on ne parle pas des femmes qui résistent et qui s'en sortent. Elles existent. Des femmes comme Christy sont synonymes d'espoir et d'empowerment. Depuis 2017, Christy Salsters, de son nom de jeune fille, est mariée à Liza Hollywine, une ancienne adversaire qu'elle a rencontrée sur le ring en 2001. Le couple vit aujourd'hui entre le Texas et la Floride, où Christy organise des événements de boxe par l'entremise de sa société de promotion. Elle a été la première femme intronisée au Nevada Boxing Hall of Fame en 2016 et est membre de l'International Boxing Hall of Fame depuis 2020, année où les femmes figurent pour la première fois sur la liste des candidats. En 2021, elle apparaît dans le documentaire biographique Untold, Deal with the Devil, réalisé par Laura Bronson et produit par Netflix. Aujourd'hui analyste de boxe et conférencière motivatrice, elle a manifestement repris sa vie en main, devenant un modèle à suivre. C'était Christy, des coups sur le ring et dans la vie, une chronique de Julie Vaillancourt parue le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Voici ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous avez un trou de mémoire, selon la science. Un texte de la rédaction, paru le 14 juin 2026 dans Futura Science. Imaginez-vous soudain incapable de vous rappeler ce que vous alliez dire. Cette expérience déroutante du blackout mental touche chacun d'entre nous. Les neuroscientifiques ont récemment percé certains mystères de ce phénomène qui occupe jusqu'à 20% de notre temps d'éveil. Que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau durant ces moments de vide total? Le trou de mémoire, cette sensation d'avoir l'esprit qui se vide complètement, constitue une expérience universelle. Pourtant, ce phénomène restait peu documenté scientifiquement jusqu'à récemment. Une analyse approfondie de 80 études publiées dans la revue Trends in Cognitive Sciences offre désormais un éclairage étonnant sur les mécanismes cérébraux impliqués dans ces moments où notre pensée semble s'évaporer. Cette recherche révèle non seulement pourquoi nous subissons ces déconnexions mentales, mais aussi pourquoi certaines personnes y sont plus sujettes que d'autres. Le sommeil local, quand des parties du cerveau s'endorment. Contrairement aux idées reçues, le blackout mental n'est pas simplement une défaillance de concentration. Les électroencéphalogrammes, EEG, révèlent un phénomène surprenant. Pendant ces périodes, certaines zones du cerveau entrent dans un état comparable au sommeil, produisant des ondes lentes caractéristiques, alors que la personne reste parfaitement éveillée. Ce sommeil local explique pourquoi ces moments surgissent particulièrement dans des contextes de fatigue intense. Les chercheurs ont identifié plusieurs conditions propices aux trous de mémoire. Les périodes d'attention prolongée, la privation de sommeil, l'épuisement physique, les niveaux d'excitation cérébrale extrême, très haut ou très bas. L'imagerie cérébrale par résonance magnétique confirme ces observations en montrant une désactivation notable des zones associées au langage, au mouvement et à la mémoire. Cette découverte correspond parfaitement aux symptômes ressentis. L'incapacité momentanée à formuler des pensées cohérentes ou à se souvenir d'informations pourtant familières. différences individuelles face aux épisodes de mind blanking. Les données scientifiques révèlent que nous passons en moyenne entre 5 et 20% de notre temps avec l'esprit vide. Cette proportion varie considérablement d'une personne à l'autre. Les études mettent en lumière que les personnes atteintes de TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, connaissent ces épisodes plus fréquemment que les individus neurotypiques. Cette variation s'explique par des mécanismes de régulation de l'excitation cérébrale qui diffèrent selon les profils neurologiques. Les chercheurs soulignent l'importance de distinguer le blackout mental de la simple rêvasserie. Là où cette dernière implique des pensées floues mais présentes, le trou de mémoire correspond à une absence quasi totale de contenu mental conscient. Les manifestations courantes du phénomène incluent 1. Des interruptions soudaines du dialogue intérieur. 2. Des lapsus d'attention en pleine conversation. 3. L'incapacité momentanée à se rappeler des informations connues. 4. La perte du fil de sa pensée en pleine activité. Les facteurs d'activation du vide mental. L'hypothèse centrale avancée par les scientifiques relie les différentes formes de blackout mental à des variations des niveaux d'excitation cérébrale. Ces fluctuations entraînent des dysfonctionnements temporaires dans les mécanismes cognitifs essentiels comme la mémoire à court terme, le traitement du langage ou l'attention soutenue. Concrètement, ces épisodes surviennent typiquement dans deux contextes opposés, soit après une intense concentration mentale, comme lors d'examens prolongés, soit pendant des périodes de fatigue extrême. Cette dualité suggère que notre cerveau possède une zone optimale de fonctionnement, au-delà ou en deçà de laquelle les risques de déconnexion augmentent considérablement. Les modifications physiologiques, neuronales et cognitives associées expliquent pourquoi nous pouvons parfois nous retrouver littéralement sans voix ou incapables de nous rappeler ce que nous étions en train de faire. Cette compréhension ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en neurosciences cognitives avec l'ambition de déterminer avec précision les seuils critiques où notre conscience semble momentanément s'éclipser. Ces découvertes sur les trous de mémoire nous rappellent la fragilité fascinante de notre conscience, cette faculté que nous considérons comme permanente, mais qui s'avère bien plus intermittente que nous ne l'imaginons. C'était « Voici ce qui se passe vraiment dans votre cerveau quand vous avez un trou de mémoire, selon la science. » Un texte de la rédaction, paru le 14 juin 2026 dans Futura Science.
Vertière, un retour en force. Extrait d'une chronique de Denis Laferrière, parue le 19 juin 2026 dans la presse. Vertière, le lieu de la dernière bataille à Saint-Domingue entre l'armée de Bonaparte commandée sur place par le général Rochambeau et l'armée des esclaves dirigée par le général Dessalines, fait ces dernières années un retour fracassant sur la scène internationale. D'abord, en faisant son apparition pour la première fois dans le plus vieux dictionnaire de langue française, celui de l'Académie elle-même, où il est donné comme l'un des exemples éclatants du mot « victoire ». Vertière a ensuite été choisi pour une future station de métro à Montréal, pour enfin provoquer une controverse internationale durant le championnat mondial de football, quand la FIFA a exigé qu'Haïti enlève ce symbole du maillot de ses joueurs. Je ne conteste nullement la décision de la FIFA, car Vertière n'est pas seulement un symbole politique, mais aussi un fait historique que la France a effacé de sa mémoire durant plus de 200 ans. Une fois de plus, Vertière est venu au secours d'Haïti pour le replacer dans le concert des nations. Ce mot « obscène », c'est-à-dire un mot qu'il convient de garder derrière la scène, s'étale aujourd'hui, jambes ouvertes, dans les journaux du monde entier. La planète apprendra un nouveau nom, Vertière, celui de la petite localité dans le nord d'Haïti où s'est jouée la dignité humaine, selon le poète martiniquais Aimé Césaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des esclaves se sont révoltés, ont vaincu leur maître pour fonder une nation encore existante 222 ans plus tard, même si frôlant chaque jour la catastrophe. Des Noirs libres, ça n'a pas plu à tout le monde, et je ne parle pas ici de racisme, mais d'argent. Faire travailler des êtres humains sans les payer, dans les plus effroyables conditions, c'est le paradis pour le maître et l'enfer pour l'esclave. Et si l'hôte a pu briser ses chaînes après 300 ans de cette situation intolérable, ce n'est sûrement pas lui l'instigateur de la sauvagerie, comme certains se plaisent à le dire, dès le lendemain de cette indépendance, afin d'empêcher le nouveau pays d'entretenir des relations internationales. La nouvelle d'un pays fondé par d'anciens esclaves devait être tue pour protéger le plus lucratif des commerces, celui de l'esclavage. Et si vous voulez connaître les lois mises en place par le colonisateur pour garder l'autre dans sa condition d'éternelle dépendance, lisez le Code noir de Colbert de 1685, aggravé plus tard par Bonaparte. Des textes juridiques où l'esclave est défini comme un bien meuble, c'est-à-dire un animal qu'on peut vendre avec ou sans sa famille ou léguer en héritage. Ce n'est qu'il y a 3 semaines, le 28 mai 2026, par un vote unanime du Parlement français, que le Code noir a été abrogé définitivement, 341 ans après sa promulgation par Louis XIV. On avait oublié ces règles drastiques qui régissaient la vie de l'esclave de sa naissance à sa mort. Freud a sûrement une explication pour un pareil acte manqué. Pour ma part, c'est un poisson qu'on ne parvient pas à noyer. Haïti serait donc un poisson hydrophobe. Je me souviens de ce gardien et historien du fort de Joux, dans le Jura, l'endroit où Toussaint Louverture a été emprisonné, qui m'a déclaré, le 23 avril 2003, 200 ans après la mort du stratège de la guerre de Saint-Domingue, que l'indépendance d'Haïti était un acte illégal. Mais je lui ai tout de suite demandé si l'esclavage était un contrat signé par les deux parties. On s'est regardé un long moment et je n'avais jamais senti le vent de l'histoire frôler ainsi ma nuque. Quand on pense que même un élégant poète comme Musset, dans son discours de réception à l'Académie française le 27 mai 1852, pour parler des esclaves révoltés de Saint-Domingue, n'a pas hésité à les appeler « monstres désenchaînés ». Que dire alors de ceux qui les avaient enchaînés? Et surtout, de quelles chaînes s'agit-il? Des chaînes de l'esclavage qu'ils ont portées durant des siècles afin d'enrichir des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'enfer des plantations de Saint-Domingue. Voilà la source de la colère de ces monstres désenchaînés, dont on a entendu le cri, cette fois, jusqu'en Europe. C'était Vertière, un retour en force. Extrait d'une chronique de Denis Laferrière, paru le 19 juin 2026 dans La Presse.